HRD Radio, la web radio 100% dédiée au directeur des ressources humaines, co-animée par Alain Marty et Richard Fremder, en partenariat avec Julie Sterwen, Barthélémy Avocat, le groupe NR, l'école IGS RH, Lefèvre Dalloz et Adéco France.
Bonjour à tous, je suis vraiment ravi de vous retrouver sur HRD Radio. Vous êtes 12 000 directeurs des ressources humaines et dirigeants d'entreprise, abonnés à notre podcast. Merci d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine et à réagir, vous le savez, sur nos réseaux sociaux. À mes côtés, pour co-animer cette émission, Marc Sabatier, cofondateur de Juliette Sterwen, Gérald Jasmin, directeur général d'Adéco France, et Dominique Leroux, directeur de la rédaction sociale de Lefèvre Dalloz. Bonjour messieurs.
Bonjour Richard. Bonjour.
Aujourd'hui, nous recevons Audrey Richard, DRH du groupe Canal+, et présidente de l'ANDRH. Bonjour Audrey.
Bonjour.
Je suis ravi de vous retrouver après deux ans. Alors je le rappelle, vous êtes parisienne et au départ, vous démarrez par la finance en fait.
Pas les finance, RH. Contrôle de gestion plutôt.
Ouais. C'est important ça finalement quand on devient DRH, d'avoir quand même une vision finance.
À mon sens, c'est important, ouais. Oui, tout à fait, d'avoir des notions de finance parce qu'on est évidemment dans notre job, on manie les masses salariales. Et donc, en effet, c'est toujours c'est mieux. Plus. Et même dans les sujets, dans les formations d'aujourd'hui, quand en tout cas, moi, j'ai l'occasion d'échanger avec des étudiants, je leur dis que, en tout cas, je fais passer le message que les chiffres, la finance, l'analyse financière, c'est quelque chose d'important dans le métier de HR.
Et j'imagine que dans les groupes dans lesquels vous êtes passé, Orange, Capgemini, SNCF, Dassault Systèmes, à chaque fois des univers différents, mais à chaque fois la finance, c'est important.
Voilà, on est en comité de direction, en comité exécutif, à côté de nos collègues de la finance. Donc, on doit être censé, ou on est censé pouvoir challenger, réagir, interagir, poser des questions. Et donc, voilà, faut être au niveau, à mon sens.
J'imagine, effectivement. Avec tous ces univers différents, il y a quand même un fil rouge dans votre carrière, quand même, dans votre vie personnelle, enfin, je veux dire, de DRH.
Alors, j'espère qu'il y a un fil rouge, hein, mais en tout cas, j'aime la matière humaine, ouais. j'aime l'humain, j'adore mon métier. Et dans notre métier, on a justement la chance de pouvoir aller d'un univers à un autre. Et en tout cas, moi, c'est ça qui m'a animée, cette recherche et cette découverte d'univers différents et de modes de gouvernance différents. Et donc, c'est pour ça que j'ai eu la chance de travailler dans l'univers public, à travers, à l'époque, France Télécom, qui est devenue Orange, mais en tout cas SNCF. Dans l'univers privé, vous avez cité Capgemini, Dassault Systèmes. Et récemment, ou en tout cas avant mon job d'aujourd'hui, j'ai eu la chance de pénétrer le monde de la coopérative, le monde de l'économie sociale et solidaire.
Chez
le groupe Up, et c'est extrêmement différent. Et franchement, ça vaut le coup d'aller voir, en tout cas de s'intéresser à cet univers dont on parle finalement assez peu, mais en tout cas qui fait du business comme d'autres. Et en l'occurrence, ce groupe qui est un groupe français qui s'est internationalisé avec un mode de gouvernance différent. Voilà, c'était extrêmement intéressant.
Belle diversité en tout cas. Voilà. Ce qui vous a permis d'être présidente de la NDRH, c'est ce que je disais tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est la NDRH pour ceux qui ne savent pas encore ?
Quoi ? Il y en a encore qui écoutent et qui ne connaissent pas. Donc, c'est une association. C'est l'association de la famille RH, donc qui est ouverte au DRH, bien sûr, au RRH, mais à l'ensemble de la famille RH. Et aujourd'hui, on est un collectif de 6150 membres. On est en croissance depuis ces dernières années. Chaque année, de nouveaux membres nous rejoignent. Et à nous tous, on a fait cette recherche, cette analyse assez récemment, à nous tous, on représente un peu plus de 12 millions de salariés. Et ce qui est important à travers cette association, c'est qu'on a un ancrage territorial à travers 70 groupes locaux, donc qui maillent l'ensemble du territoire économique. Et donc, si je suis RH à Saint-Malo, eh bien, je peux aller dans le groupe que, d'ailleurs, nous venons d'ouvrir la semaine dernière pour rejoindre un collectif de DRH et échanger sur mes problématiques d'aujourd'hui et les sujets de demain, de prospective.
C'est bien de le rappeler. Donc, depuis 2024, DRH de Canal+ Group, belle marque Canal+ Group. C'est compliqué quand on arrive, on se dit Canal+, est-ce que c'est angoissant? C'est une grande marque, belle marque, devenue mondiale. Est-ce qu'il y a une appréhension ou pas, où on se dit « non, c'est chouette ».
Alors, angoissant, en tout cas pour ma part, pas du tout.
Donc,
c'est très récent, hein, c'est quelques mois. Non, pas du tout angoissant, bien au contraire. Au contraire, c'est rentrer dans un univers déjà plutôt sympa, qui fait rêver certains.
Ouais.
Et en tout cas, au fur et à mesure de cette découverte, c'est découvrir un univers de salariés, de salariés qui sont extrêmement engagés. Alors, j'imagine que dans plein d'entreprises, évidemment, que les salariés sont engagés. Mais en tout cas, là, moi, ce que je vois, c'est je partage le quotidien de salariés passionnés. Passionnés par le sport, passionnés par le ciné, passionnés par les séries, l'écriture, les histoires. Et des gens qui travaillent, en tout cas pour certains, qui ont peut-être du mal à faire cette différence. Mais en tout cas, je rentre dans un univers très différent et très intéressant et très, j'allais dire joyeux. Oui, en fait, ça apporte plutôt de la joie, du divertissement à ses clients.
Je comprends. Eh bien, on va voir ça en détail. Marc ?
Alors, vous venez de le rappeler, ainsi que Richard, vous avez rejoint le groupe Canal+ depuis quelques mois seulement. Vous le disiez également, là c'est plutôt moi qui le dis, un groupe international exposé, sans doute très attractif, avec un niveau d'engagement, de beaux produits en tout cas. Quand on arrive en tant que DRH dans un aussi beau groupe et de cette envergure-là, on commence par quoi ? En fait, est-ce que vous pourriez partager votre expérience des 100 jours d'une DRH qui arrive dans un groupe d'une telle envergure ?
Oui.
On fait quoi ? Quelle priorité ?
Oui, alors, je vais partager mon expérience. Je pense que, en tout cas, moi, j'ai eu beaucoup de chance. Je ne suis pas sûre que ça soit le cas. Mais en tout cas, avant d'arriver, étant donné que je ne venais pas de ce domaine des médias et du divertissement de ce domaine, j'ai souhaité aller dans les métiers, donc vraiment m'imprégner de la connaissance des métiers. Et donc, j'ai eu cette chance-là, pendant plusieurs semaines, d'aller à côté du cadreur, à côté de la régie, à côté de tous les métiers. Et vraiment, l'objectif de ça, c'était de comprendre l'environnement, de comprendre ce qui était top dans ce métier et de comprendre les contraintes. Voilà. Et donc, j'ai eu cette chance-là. Et en même temps, j'ai vu l'ensemble des patrons. Ce qui m'a donné une vision vraiment globale, j'ai pu poser des questions sur, évidemment, les enjeux business, évidemment, les enjeux RH. C'est quoi ton enjeu RH ? C'est quoi ta problématique du quotidien ? Qu'est-ce que l'équipe RH peut t'apporter qu'elle a déjà fait ? Puisque, évidemment, l'équipe RH est très senior, il y a plein de choses. Mais qu'est-ce qui manque aujourd'hui, dans le contexte d'aujourd'hui, dans le business d'aujourd'hui, dans l'évolution du marché d'aujourd'hui et des attentes des clients? Et j'ai eu énormément de matière et ça m'a permis de travailler tout de suite sur une feuille de route, évidemment avec mon équipe, qui est extrêmement bonne, pour tout de suite avoir la vision globale de on va faire quoi ensemble sur 2024-2025. Et donc, j'ai pu partager ça, évidemment, avec le comité de direction qui a retouché, validé et retouché un petit peu, mais ça a été validé, puis présenté aux partenaires sociaux, que j'ai évidemment aussi interrogé quand j'ai fait ce travail de c'est quoi tes enjeux. Et donc, j'ai également interrogé les partenaires sociaux, les organisations syndicales. Et donc, une fois que cette feuille de route a été stable, je l'ai ensuite partagée à l'équipe RH globale, afin qu'on soit tous en phase, évidemment l'équipe de direction, en CSE, etc. Et donc ça y est, on y va, on est vraiment parti à fond. Maintenant, je sais que j'ai eu cette chance d'avoir ce temps-là, et je sais que c'est évidemment pas comme ça dans toutes les entreprises. Donc je
sans
mesure.
Sans doute qu'il faut le demander. Hein.
Comment ?
Sans doute qu'il faut le demander, parce que je pense que c'est important.
Oui, je vous rejoins. Il faut le demander. Maintenant, le principe de réalité fait que parfois, et je pense que dans la plus grande majorité des cas, ce n'est pas le cas. Maintenant, il y a eu ce retour de mon président qui a dit oui, qui m'a donné ces moyens-là. Donc, tout le monde est à fond. Maintenant, juste un point quand même, c'est qu'une feuille de route comme ça, c'est bien. On a le planning, on a les grandes idées en tête pour 2024-2025 qui vont aider, à mon sens, les salariés, les managers, etc. Maintenant, le principe de réalité, c'est que évidemment, il y a plein de projets qui arrivent chaque semaine en plus, de gros projets de transformation qu'il faut évidemment intégrer. Et juste pour la petite anecdote, il y en a donc chez Canal+, de gros projets de transformation. Maintenant, dans mon bureau, je me suis dit, j'ai imprimé ma feuille de route que j'ai mise devant mes yeux en me disant, voilà, évidemment qu'on est attendu sur les grands projets, mais si, en tout cas, moi, personnellement, si je n'ai pas ma feuille de route devant, c'est extrêmement facile de l'oublier et de partir sur les sujets d'actu, chaud, etc. Donc, voilà, c'était juste le petit clin d'œil.
Merci pour le témoignage.
Gérald.
Oui, merci Audrey. Déjà, enchanté de faire votre connaissance. Et puis, bien évidemment, vous parlez de votre feuille de route. Dans votre feuille de route, Audrey, la gestion des compétences, comment j'ai le coup d'après pour mes salariés et comment je travaille mon attractivité vis-à-vis des candidats externes, parce que c'est un monde un peu fermé qui fait rêver, bien évidemment. Mais est-ce que vous avez des moyens particuliers d'attirer des candidats, notamment, soit par des dispositifs de qualité de vie au travail ou soit par des dispositifs de formation qui donnent un vrai parcours professionnel à ces candidats et qui font que Canal+ est un peu atypique?
Beaucoup d'entreprises proposent des parcours atypiques ou se creusent vraiment la tête pour proposer du parcours professionnel. Aujourd'hui, quand on regarde les attentes des collaborateurs, mis à part le sujet numéro un qui est le package, ça, on se rappelle, c'est le numéro un, hein, qu'on ne se trompe pas de priorité. Après, évidemment, les salariés, ils s'engagent dans une entreprise avec une culture et avec envie et donc ils attendent des parcours professionnels. Donc, je vais partager sur ce qu'on peut proposer chez Canal, mais gardons en tête que la majeure partie des DRH travaillent sur ces sujets-là qui sont quand même notre matière et notre à mon sens, plus-value. Donc chez Canal, de ce que j'ai vu qui existait, de ce que moi, j'ai envie de continuer avec l'équipe, c'est de partir du début du jeune qui arrive, qu'on forme en stage, en contrat d'apprentissage, que peut-être on va aller prendre en VIE, envoyer dans un pays, puis dans un autre, puis revenir au siège, puis réenvoyer dans un pays. Ça donne des perspectives. On a la possibilité de le faire. On est dans 45 pays chez Canal. On a cette possibilité, c'est facile en fait de le faire. Si l'envie est là, évidemment, il faut que ça colle avec le business, mais en fait, il y a des possibilités. Maintenant, souvent, le DRH à ces plans-là, la difficulté, c'est que le salarié ou la masse de salariés, souvent, ne le voit pas. Parce qu'il n'y a quand même pas des centaines... Enfin, si, ça dépend de la taille. Mais souvent, le salarié dit « En fait, je n'ai pas de visibilité sur le parcours professionnel. On ne vient pas me voir pour me proposer. » Parce que c'est vrai qu'on vient voir certains, mais pas tous.
Oui, c'est vrai.
Et donc, le travail qu'il y a à faire, qu'on a commencé, en tout cas depuis mon arrivée, c'est de mettre en visibilité ceux qui ont vraiment évolué pour donner de la perspective aux autres, parce qu'en fait, ils existent en vrai, mais juste on n'en a pas parlé et on n'a pas pris le temps de se poser en disant « Bon, voilà, t'es passé de tel job à tel job, raconte-nous comment ça s'est fait. Tu as soit évolué, soit t'es passé sur le même métier, mais dans un autre environnement au sein du groupe, raconte. » Et ça permet, à mon sens, de donner de la visibilité et de continuer, si on reste sur l'envie,
ouais, bien sûr.
De rester sur l'envie. Donc, il y a des choses comme ça chez Canal. Il y a aussi qui étaient lancées avant mon arrivée et que moi, je vais essayer d'élargir pour que tout le monde en profite, mais des échanges. On a des salariés qui vont aller échanger pendant peut-être un mois, qui vont aller travailler dans un autre pays, sur leur domaine, mais dans un autre environnement. Donc, un contrôleur de gestion qui va aller travailler au Vietnam, par exemple, sur son job de contrôle de gestion, pour voir et appréhender un autre environnement, pour partager aussi ces pratiques.
Dominique.
Bonjour.
Bonjour.
Ma question s'adresse à la présidente de la NDRH. Je voulais savoir un petit peu, on sait que le gouvernement a enfin dévoilé ses intentions sur congés payés maladie. Il a déposé un amendement à un projet de loi. Quel est votre sentiment sur ces nouvelles dispositions que propose le gouvernement et qui permet à un salarié malade d'acquérir 2 jours de congé, ce qui n'était pas le cas aujourd'hui?
Alors oui, il y a eu beaucoup de discussions et beaucoup d'attentes de la part des DRH sur ce sujet spécifique. où les DRH étaient très, très, très inquiets, puisque certaines entreprises ne comptaient pas les jours de maladie. Et donc, quand ce sujet est tombé dans notre actualité, on a été confrontés à des DRH très, très inquiets qui devaient provisionner. Et quand on faisait le calcul, ça faisait plusieurs millions pour une entreprise. C'était extrêmement compliqué. Et là, typiquement, le rôle de la NDRH, c'est de rentrer en contact avec le ministère du Travail pour expliquer que les difficultés de nos entreprises, pour peut-être, et c'est ce qu'on a fait, organiser un call avec quelques DRH qui sont confrontés avec cette problématique et échanger, donner, expliquer, argumenter sur les sujets. Et l'ANDRH sert aussi à ça. Tout à l'heure, je parlais des échanges de bonnes pratiques entre pairs. Mais un des rôles majeurs de l'ANDRH, c'est d'avoir ce lien direct avec le gouvernement. Évidemment, le ministère du Travail, après, pendant la période du Covid, c'était aussi avec le ministère de la Santé. Mais où on peut faire... ça marche dans les deux sens, en fait. Nous faire remonter les problématiques du terrain sur soit un secteur d'activité, soit un secteur territorial, et faire remonter pour qu'il y ait de prise de conscience et ensuite des actions qui vont aller... solutionner ou aider à solutionner le problème. Mais ça peut être aussi dans l'autre sens où le gouvernement nous fait soit relire des projets, soit nous interroge sur des sujets. Et la NDRH est extrêmement souvent sollicitée et auditionnée pour avoir et entendre la voix du DRH. Et ça a évolué sur ces dernières années où maintenant, il ne se passe pas un sujet sur le monde du travail où on n'est pas consulté et où on demande l'avis du collectif et du DRH, parce qu'évidemment, ça va impacter le monde du travail, les entreprises, les salariés, les partenaires sociaux, etc. Donc, c'est extrêmement intéressant d'être dans ce collectif et d'aller pousser des sujets qui vont nous soulager dans notre vie quotidienne de RH.
Audrey, on a 30 secondes, ça va être très frustrant, mais je sais que vous aviez envie d'en parler, le sujet est important. 125 et des milliers, un livre de Sarah Baruch. Vous vouliez en parler parce que c'est important en termes de RH.
Tout à fait. Alors ce livre, probablement beaucoup le connaissent déjà, 125 et des milliers, c'est Sarah Baruch qui a traité le sujet des féminicides. Et donc on a eu un échange assez fréquent avec Sarah, parce que, à mon sens, alors là je parle au nom de la NDRH et de moi-même et de mon job de DRH, mais à mon sens, l'entreprise peut avoir son rôle pour aider les femmes qui sont en difficulté et qui sont victimes de violences au sein de leur foyer. Et à mon sens, l'entreprise peut aider ces femmes sur du temps entre guillemets masqué, où la femme vient au travail, pendant qu'elle est au travail, on lui permet, sur ses heures de travail, d'aller déposer plainte, de l'aider à trouver un logement, etc. Et Sarah Baruch a, à travers son livre de témoignages sur des féminicides, où elle essaye de faire revivre ces femmes à travers des personnalités qui racontent ces femmes, en fait, a ouvert le sujet que nous avons pris et nous sommes en train de construire des choses pour qu'on facilite ces actions au niveau des entreprises.
Le sujet était important, il fallait en parler.
Merci.
Merci beaucoup Audrey, vous êtes formidable. Merci également à vous Marc, Gérald et Dominique. Fin de ce numéro d'HRD Radio.
Merci.
Retrouvez toute notre actualité sur notre compte LinkedIn. On se donne rendez-vous jeudi prochain, 14h précise, pour accueillir un nouvel invité.
L'invité de la semaine de HRD Radio, une production B2B Radio en partenariat avec Julie Sterwen, Barthélémy Avocat, le groupe NR, l'école IGS RH, Lefebvre Dalloz et Adecco France.